Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons tout d'abord la bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent en ce libre journal des amitiés françaises. Nous n'avons pas de standard, vous ne pouvez pas téléphoner pour vos messages, mais néanmoins, vous pouvez les envoyer par courrier électronique courtoisie@rc.fr. courtoisie@rc.fr, nous serons très heureux de les proposer à notre invité. Il y a encore une originalité française. Durant la première partie de cette émission, nous avons évoqué le savoir-faire et la politesse constitutive de l'identité française. Malheureusement, notre invité nous a expliqué que c'était en voie de disparition. Eh bien, il y a encore une originalité française qui est héritée de l'histoire. Ce sont nos territoires ultramarins, ceux qui font que la France est une puissance maritime et le deuxième pays au monde pour l'importance de ses côtes. Nous fêtons cette année le 65e anniversaire d'une très belle institution qui est justement spécifique à ces territoires ultramarins. Cette institution contribue à la belle œuvre de la France en ces régions lointaines, ces régions qui font partie de notre pays et contribuent justement à sa beauté. Cette institution vise à faire grandir les jeunes en difficulté de ces territoires pour en faire des citoyens armés. Mais des citoyens armés pour affronter la vie, justement, pas armés avec une arme, affronter la vie et construire leur avenir en toute responsabilité et autonomie. Cette institution dont nous allons parler ce soir, le service militaire adapté, est portée par des militaires, pas n'importe quel militaire, car il s'agit de ce qu'on appelle la coloniale, les marsouins, des troupes de marine. Très nombreux sont les jeunes de Nouvelle-Calédonie, juste un chiffre, un jeune adulte de Nouvelle-Calédonie sur trois passe justement par cette institution, le service militaire adapté. Ça concerne aussi l'Océanie, dont Tahiti, la Réunion, la Martinique, tous ces territoires ultramarins. Eh bien, ces jeunes rejoignent le service militaire adapté pour y retrouver force, dignité, fierté et aussi nous en voir un avenir professionnel. Certains témoignages, certaines histoires sont à cet égard particulièrement émouvantes. Cette superbe institution est un exemple de dévouement. Il pourrait d'ailleurs servir de modèle à la métropole. C'est aussi une belle œuvre française, un motif d'espoir et de fierté en ces temps de doute et de questionnement. Et nous avons le plaisir de recevoir justement le chef de ce service militaire adapté, le général Bellon, qui est dans le studio. Et général Bellon est en activité et il est là ce soir en direct. Général Bellon, merci beaucoup, bonsoir à vous. Merci d'être dans le studio en ce dimanche soir. Vous êtes très, très occupé, vous avez de lourdes responsabilités parce que votre zone de commandement est quand même très vaste. Hein. Nous allons voir tous les territoires ultramarins sur lesquels nous trouvons justement ce service militaire adapté. Donc merci de venir témoigner de cette institution. C'est un grand plaisir et un grand honneur que de vous recevoir. Je vous présente aux auditeurs de Radio Courtoisie parce que c'est la première fois. Je crois que vous venez à la radio. Nous recevons régulièrement des officiers d'active, mais en tout cas, en ce qui concerne le service militaire adapté, c'est la première fois. Alors, vous êtes Saint-Cyrien, vous avez choisi à la sortie de Saint-Cyr les troupes de marine, avec une spécialité qui sont les transmissions. Vous avez servi dans de nombreux endroits du monde, ce qui est logique, vu votre arme, les troupes de marine. Vous avez servi en ex-Yougoslavie, vous avez servi en Côte d'Ivoire, en Albanie, au Kosovo, vous êtes allé aussi en Afghanistan, où vous avez d'ailleurs contribué à la création de l'école de guerre afghane. Et puis vous avez commandé le régiment, justement, du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie, exactement, de 2012 à 2014, donc déjà il y a un tropisme en quelque sorte,
exactement, oui,
qui vous a certainement donc amené à ce poste de commande, parce que vous allez nous expliquer comment c'est organisé. Il y a des régiments dans tous ces territoires ultramarins, et vous en êtes en effet le chef, puisque vous avez pris le commandement du service militaire adapté le 1er août 2024. C'est 2 ans.
Exactement. 2 ans. Deux ans bien remplis.
Vous allez quitter bientôt. On parlera bien sûr du bilan, entre guillemets. Naturellement, j'imagine que vous le quitterez avec une certaine émotion.
Une certaine émotion.
C'est... Parce que ce sont effectivement des postes, des responsabilités qui sont particulièrement attachantes. Je voudrais vous poser quelques questions, si vous voulez, sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre l'armée? On utilise le terme de vocation, c'est vraiment une vocation.
Alors, je salue vos éditeurs tout d'abord, et effectivement, ça a été pour moi dès le départ une vocation. Je suis issu d'une famille militaire par mon grand-père, mon père, qui ont tous les deux servi dans les troupes de marine, coloniales, puis les troupes de marine, au RICM tous les deux, régiment d'infanterie, char de marine, colonial du Maroc à l'époque, pour mon grand-père. Voilà, donc il y avait cette filiation, mais au-delà de ça, le sens du service, ça aussi m'a toujours motivé, le sens du don de soi, de l'effort porté vers les autres, se dépasser soi-même, l'esprit d'équipe. J'ai fait pratiquer le rugby longtemps, donc on retrouve toutes ces valeurs dans le milieu militaire et surtout servir son pays en fait. Servir les autres, servir la France, la défendre. C'était ma vocation très, très, très tôt. Mmh. Puisque j'ai fait une partie de ma scolarité en lycée militaire à Aix-en-Provence, beau lycée, au pied de la Sainte-Victoire. J'ai eu la chance d'avoir été sélectionné pour partir en classe préparatoire, pour préparer Saint-Cyr, que j'ai pu réussir au sein de la promotion Général Guillaume. Donc tout ça, c'est un parcours qui se construit progressivement, avec beaucoup de travail bien sûr, mais aussi vraiment une envie d'aller au-delà de moi-même, de me rendre fier, mais mon père, qui était sous-officier dans les troupes de marine, et montrer qu'on pouvait réussir par le travail à accéder à de belles responsabilités. Voilà, donc c'était un parcours de vie. Que je partage avec ma famille, avec mon épouse et les enfants qui ont suivi ce parcours aussi tout au long de notre carrière par de multiples déménagements. Voilà, donc on voit souvent les contraintes dans le métier militaire de la mobilité, effectivement du sacrifice fait par nos conjoints, épouses, de devoir mettre en parenthèse une partie de leur carrière pour nous suivre. Nos enfants aussi, ma fille aînée, elle a quasiment fait tous nos déménagements. Donc, voilà, ça c'est très personnel, mais au-delà de ça, je pense que il y a cette envie de servir, du service qui nous tire vers le haut. Ce sentiment aussi de pouvoir, par l'esprit de discipline, être capable de pouvoir aller dans des situations les plus délicates, là où c'est difficile. Là, on engage les armées, là où c'est difficile, et cette volonté de se dire qu'on peut y participer, quelque part, en toute humilité. C'est quelque chose qui m'a toujours motivé. Les drapeaux, les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, c'est quelque chose qui a toujours eu beaucoup d'importance pour moi, dans ma famille, aussi autour de moi. Savoir partager aussi avec ceux qu'on a l'honneur de commander, ceux qu'on a l'honneur d'avoir sous nos ordres pendant du temps de lieutenant jusqu'au grade de colonel, puis de général aujourd'hui. Ça a été toujours une source d'épanouissement. Une de mes devises, c'est « Va et soli, malheur à l'homme seul », vous voyez. Et donc, on ne fait rien sans les autres, sans ce lien qu'on crée avec nos subordonnés, avec ce qu'on sert, avec nos chefs également, au profit de missions qui peuvent être parfois, et d'ailleurs complètement assez différentes, qu'on soit dans les transmissions, qu'on soit en opération, qu'on soit en exercice, ou qu'on soit aujourd'hui dans le cadre du service militaire adapté. Vous voyez, on se construit aussi par ça, par la diversité de nos missions, et ça c'est la chance que peut offrir notre institution militaire, que de pouvoir avoir des parcours de vie. C'est l'escalier social dont on parle souvent, c'est bien un escalier, on monte par l'effort, et ça ce sont des valeurs qui me sont chères, que j'aime bien partager avec les plus jeunes. Cette exemplarité aussi, vous savez, je pouvais commander dans un régiment de transmission, et j'ai choisi de commander dans un régiment du service militaire adapté par envie aussi de transmettre aux jeunes des Outre-mer cette fibre qui m'a toujours motivé, de pouvoir avoir pose perspective la grandeur de notre pays, sa protection, la défense des intérêts de la nation, de nos concitoyens, tout ça, ça se transmet par l'exemple, l'exemple que je pouvais, à ma modeste place, faire valoir auprès de ces jeunes. C'est ce qui m'a longtemps motivé aussi dans tout ce parcours qui m'a amené jusqu'au commandement du service militaire adapté.
Je suis enrichir par le travail, c'est le terme que vous avez utilisé, l'ascenseur social par le travail, ça pourrait être aussi une devise du service militaire adapté. Nous allons en effet en parler. Alors, votre parcours est très riche. J'aimerais vous poser une dernière question sur cette vie militaire vraiment caractérisée par des missions à l'étranger, hein, que ce soit en ex-Yougoslavie, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, et puis après ce régiment du service militaire adapté que vous avez commandé en Nouvelle-Calédonie. Y a-t-il une expérience particulière qui vous a le plus touché, le plus frappé, que vous voudriez évoquer pour les auditeurs de Radio Courtoisie ?
Alors, cette expérience a été mon premier temps de commandement en fait en opération à Sarajevo. Jeune lieutenant sortant de Saint-Cyr, un an auparavant, je m'en trouve projeté sur un territoire à 2h30 de Paris, ravagé par la guerre, où traverser Sarajevo, les immeubles étaient détruits, il y avait encore Sniper Alley, oui. Ces jeunes, ces personnes qui étaient assassinées par des tireurs d'élite, des deux côtés d'ailleurs, souvent. Ça a été une expérience extraordinaire pour moi, puisque dans la section de transmission, j'avais deux adjoints, un adjoint, deux sous-officiers supérieurs, deux adjoints-chefs, un adjoint et un responsable d'un centre de transmission d'infrastructure qui lui aussi était un officier supérieur. Moi, jeune lieutenant, sans guère d'expérience, d'une part des situations de crise, de cette guerre qui se déroulait sous nos yeux. D'ailleurs, en atterrissant à Sarajevo, on met notre casque, on enfile son gilet pare-balles et on entend tirer autour de soi. Enfin, ça faisait un an que j'étais sorti de Saint-Cyr et ça met bien les choses en perspective. Et donc, il a fallu amener cette section d'une quarantaine de jeunes qui avaient le centre tactique, mais aussi des unités mobiles qui fournissaient des éléments moyens radio pour commander les unités sur le terrain dans la zone commandée par le général. Il fallait aussi s'imposer naturellement auprès de l'ensemble de ces subordonnés qui venaient de sections différentes. On a fait un détachement. Donc, ça m'a permis d'apprendre sur moi beaucoup, capacité de... Certes, de prendre en compte, en humilité, toute humilité, les conseils, les orientations, comme dans mes sous-officiers, mais aussi de pouvoir décider quand c'était nécessaire, mais aussi de montrer l'exemple. Montrer l'exemple quand un jeune caporal-chef, Bastien Tavani, est tué sur la piste de Boutmire en montant vers le mont Guimane. Montrer l'exemple le lendemain en se mettant en chef de bord et montant seulement Iban pour montrer l'exemple à tous mes cadres que la mission continuait et qu'il fallait aller de l'avant malgré la peine, la douleur que tout cela nous procurait. Donc ça a été un moment fort pour nous, dramatique bien sûr, fort, mais aussi de cohésion qui nous a permis d'aller de l'avant sur une mission qui a duré pendant 4 mois et 2 semaines. Lorsqu'on a quitté Sarajevo, on était sur le mont Iman et on voyait les A-10 américains qui plongeaient On changeait de situation. Après le premier pont de Verbania, l'OTAN décidait d'intervenir et la force de réaction rapide prenait le relais de la force de protection des Nations Unies, la FORPRONU. Et ça a été vraiment comme un signal que cette mission avait vraiment basculé. Vous voyez, ça a été quelque chose d'assez fort de voir sur un théâtre de guerre, il fallait aussi... parfois voir toutes ces ruptures, ces changements de positionnement du jour au lendemain où nous, lorsqu'on faisait nos convois, montant sur le mont Iman, on avait peu de moyens de pouvoir agir avec nos armes. Et quelques semaines après, au moment de notre départ, c'est l'OTAN ripostait et s'imposait. Et voilà, ça a été une expérience forte pour moi, qui m'a bien... permis de déjà prendre de l'assise dans mon commandement, et ça c'était essentiel, cette attention portée à chacun de nos soldats, surtout lorsque le drame arrive au sein de la section, remobiliser tout le monde, être attentif à ceux qui étaient dans la peine et n'étaient plus vraiment en mesure de remplir leur mission pendant un temps, aidé par mes sous-officiers, cette confiance qu'on crée en allant voir de nuit le car à la radio continuer d'assurer la permanence du commandement. Voilà, ça c'était des moments forts qui m'ont construit tout au long et qui a créé aussi une certaine forme de solidarité entre nous. Voilà, c'est l'expérience que je peux partager avec vous, une expérience assez énorme qui m'a effectivement permis d'apprendre encore plus sur mon métier de chef, que ce soit dans les transmissions, les armes de mêlée. À un moment, il faut décider, il faut prendre l'avant, il faut se montrer exemplaire, combatif et attentif à ses subordonnés. Et ça, ça c'est la richesse de notre métier. Et on se construit par ce biais-là.
Merci, mon général, pour ce beau témoignage. Je vous propose d'évoquer maintenant votre commandement, le service militaire adapté. Dans les documents de présentation, vous soulignez le rôle majeur du service militaire adapté dans la cohésion nationale et la solidarité dans les territoires outre-mer, par la proximité notamment avec les populations locales. Alors, double question, qu'est-ce que c'est que le CMA et pourquoi devons-nous, souhaitez-vous que nous nous y intéressions ?
Alors effectivement, le service militaire adapté, c'est un dispositif d'insertion socio-professionnelle qui a pour mission de former, de qualifier, d'insérer dans la vie professionnelle des jeunes hommes et femmes d'âgés de 18 à 25 ans. Certains d'entre eux sont, le trois quarts, sont issus du système scolaire, sont sortis du système scolaire sans qualification. D'autres diplômés sont éloignés de l'emploi, au chômage depuis plusieurs années, on les remobilise vers l'emploi. Ça fait 65 ans que le service militaire adapté intervient outre-mer, comme vous le rappeliez dans l'introduction. C'est un dispositif qui est très connu outre-mer, qui est plébiscité outre-mer. On demande plus des services militaires adaptés outre-mer. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'était vraiment au travers de cette interview, au travers de toutes ces activités que nous avons menées la semaine précédente pour célébrer les 65 ans du SMA, c'est de mieux faire connaître ce dispositif dans l'Hexagone, montrer que ce dispositif qui agit pour mission aux confins de la République porte les mêmes valeurs sur les trois océans, voilà. Et permet effectivement à une jeunesse à qui on n'a pas forcément donné ou qui n'a pas pris la peine d'avoir toutes les chances au départ, de les remobiliser, de reprendre confiance en eux et de les aider à s'insérer dans une vie socio-professionnelle épanouie, consciente de leur rôle de citoyen, des citoyens engagés, des citoyens capables de pouvoir participer à la vie sociale. Alors, nos dispositifs, en fait, accueillent 5 800 jeunes par an. Voilà. Sur ces 5 800 jeunes, on trouve, comme je disais tout à l'heure, trois quarts de volontaires stagiaires, donc ceux qui sont sans diplôme, et un quart de volontaires techniciens qui sont diplômés. Nos résultats sont assez probants en termes d'insertion socio-professionnelle, puisque 80% d'entre eux sont insérés dans la vie socio-professionnelle. 63% trouvent des contrats à durée indéterminée ou des CDD de plus de 6 mois. Il y a peu de départs. Disons qu'on a un taux d'attrition d'une dizaine de pourcents, ce qui n'est pas très élevé. Et effectivement, derrière, on voit bien qu'on relance des vies, des parcours de vie. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte le service militaire adapté. Et on souhaitait, au travers de ces 65 ans, le démontrer. Démontrer qu'ici, ces efforts faits par la République au profit de nos Outre-mer portent leurs fruits. Portent leurs fruits sur des territoires qui, effectivement, souffrent de crises régulières, sociales, économiques, climatiques. Et cet intérêt pour ces Outre-mer se manifeste au travers de ces jeunesses qui portent l'avenir de ces territoires. Et ce souci de cette jeunesse des territoires, ce souci de faire en sorte qu'il trouve un travail, mais reste sur le territoire, participe au développement du territoire. Ça fait partie des missions essentielles du service militaire adapté depuis le début, depuis sa création.
Alors vous expliquez effectivement que ce service militaire adapté est très connu outre-mer, il est même très demandé. En revanche, il est peu connu en métropole. C'est assez étonnant vu les résultats que vous obtenez. Vous formez 5 800 jeunes par an. Vous allez bien sûr nous parler de la formation. On va rentrer dans le détail naturellement de cette formation. 5 800 jeunes par an, tous entre 18 et 25 ans.
Oui, c'est ça. Et nous avons aussi une formule qui compte à peu près 200 jeunes cadets. Ils ont 16 ans. À partir de 16 ans, l'idée, c'est vraiment de traiter avec le rectorat chacun de nos outre-mer des jeunes qui commencent à être en décrochage scolaire. Et donc, ils viennent pour des périodes d'une trentaine de jours dans nos régiments et au travers d'exercices, de sorties sur le terrain, d'activités sportives et au travers des activités proprement parler militaire, entre guillemets, sans jamais ce qui se fasse du combat. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment leur montrer quand, par l'esprit d'équipe, ils arrivent à se mobiliser, prendre confiance là aussi en eux. Et les résultats sont assez probants. Hein. Enfin, ces jeunes là qui sont en début de décrochage scolaire reprennent. Alors, c'est pas nous qui le disons d'ailleurs, c'est l'Éducation nationale et les rectorats avec lesquels on traite, qui nous demandent chaque année de reconduire le dispositif. Donc, il est utile aussi pour ces jeunes. Disons qu'ils sont peu nombreux par rapport au volume de jeunes que l'on accueille sur l'ensemble du SMA, mais c'est aussi une mission qui a commencé en 2021, en fait.
Donc, il y a deux types de formations. Il y a une formation longue, on va en parler,
oui.
Et une formation plus courte, qui est en quelque sorte de recevoir pendant un mois ces jeunes en décrochage ou en menace de décrochage scolaire, c'est ça?
Exactement. Mais
Il y a une double action. Hein,
une double action, oui. Mais l'essentiel de notre action porte sur la formation des volontaires stagiaires et techniciens, qui sont, eux, âgés de 18 à 25 ans.
Mmh. Bon, on a évoqué effectivement cette double formation. Alors, je vous propose de détailler, dans un premier temps, les missions de ce service militaire adapté, parce que elles sont multiples. Il y a un aspect professionnel, là, encourager l'insertion professionnelle, une formation professionnelle, acquérir un métier.
Oui.
Et vous venez d'en préciser des résultats très, très probants, puisqu'environ 70% d'entre eux trouve un travail, donc 80% et 69% CDI, et ouais, c'est une performance, c'est, hein, tout le monde court après les CDI, contrat à durée déterminée, 69%
c'est une vraie réussite,
trouve,
hein.
Donc c'est assez extraordinaire, parce que et puis il y a toute la formation en quelque sorte morale, physique et morale, vous nous avez expliqué en quoi ça consiste, et quelles sont la pédagogie, quelle est la durée. Donc, je vous propose donc de détailler effectivement les différentes missions et la pédagogie que vous employez pour réussir dans ces missions.
Alors, je dirais d'abord que c'est une mission qui est exaltante et passionnante et surtout très exigeante. Les missions du service militaire adapté, elles consistent en trois volets. Le premier volet, c'est l'insertion socio-professionnelle dont je parlais.
Oui.
Le deuxième volet qui est complémentaire, c'est de participer au développement du territoire. J'y reviendrai par la suite.
Oui.
Et le troisième volet, c'est d'être capable de pouvoir réagir en tout cas de crise climatique, en secours ou en soutien de population, mais pas que. Donc, les incendies de grande ampleur, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, nous amènent à intervenir sous commandement du général commandant la zone. Donc, c'est le volet plus opérationnel, allons dire, qui a trait à la protection, au secours des populations. Donc ça, c'est le troisième volet, et c'est une mission importante. Et vous voyez que la première et la dernière mission participent au développement du territoire. C'est central. Et il est vrai que donc, dans la première mission, qui est l'insertion socio-professionnelle, nous travaillons en fait sur 12 familles professionnelles à peu près, 91 métiers. Disons que chaque territoire a des besoins spécifiques, ce qui participe au développement. Et on ne va pas me recopier des formations, il y a des troncs communs, mais il y a des formations qui sont aussi plus adaptées à un territoire qu'à un autre. Ce qu'on peut réaliser, c'est que pendant 10 mois, en moyenne, les jeunes viennent chez nous. Ils ont d'abord une première partie en 2 mois de formation militaire, les classes, comme on aimait bien les appeler. Ces classes, elles permettent effectivement la formation militaire initiale de créer l'esprit de corps d'abord, l'esprit du groupe, l'esprit d'équipe, et d'apprendre les éléments essentiels de ce qu'on peut attendre et qui va suivre ce jeune tout au long de sa formation. Ce que je vais jamais appeler le fond de sac. Ce fond de sac qui est commun à tous nos militaires. C'est-à-dire être capable de pouvoir se respecter les uns les autres, respecter les hiérarchies, les ordres donnés, travailler en sécurité, être à l'heure, se respecter soi-même, j'ai oublié de le dire, ça c'est important. Se dire qu'en soi, on a des qualités, des capacités, des talents que l'on peut faire fructifier au travers de l'effort et par la formation qui est donnée par les cadres militaires qui suivent tout au long de leur formation ces jeunes et les spécialistes techniques qui vont les amener à un métier derrière. Donc on a toujours ce volet de savoir-être militaire qui irrigue toute la formation de nos jeunes. Et à côté de ça, ils ont des formations plus spécifiques en fonction des spécificités qu'ils ont choisies ou pas, d'ailleurs, en arrivant au SMA. J'ai dit ou pas, parce que des fois, les filières sont saturées, donc on oriente le jeune vers une autre filière qui peut plus correspondre à ses capacités. D'ailleurs, nous avons des tests pour essayer de déterminer quelle formation serait les plus adaptées pour ces jeunes, pour qu'ils enfin puissent s'épanouir pendant le temps qu'ils restent chez nous. Donc vous avez des formations qui durent de 8 à 8 mois à 12 mois. Des formations plus courtes aussi de 6 mois qu'on réalise au profit de jeunes qui veulent passer des concours, notamment la fonction publique territoriale ou la fonction publique tout court. Je me souviens qu'en Martinique récemment, j'ai croisé un jeune première classe, volontaire technicien, donc ces jeunes diplômés dont je parlais tout à l'heure, qui, au moment de ma visite de commandement, me dit « Mon général, demain, j'ai les résultats du concours des douanes. » Et le lendemain, effectivement, il se précipite vers moi au moment où j'ai rentré dans le bureau du chef de corps. Il me dit « Mon général, j'ai réussi le concours des douanes, un concours difficile, vous voyez. Volontaire technicien, qui était diplômé au chômage pendant plusieurs années, qui se remobilise vers l'emploi et qui réussit un concours aussi difficile. » Et donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais dans ces formations courtes, on a la chance de pouvoir remiser des jeunes, souvent des jeunes diplômés, vers des métiers qu'ils n'auraient pas envisagé pouvoir faire avant de rentrer chez nous. Le volet de la formation au savoir-être, c'est quelque chose d'indispensable, qui permettra d'avoir aussi des repères dans la vie lorsqu'ils quitteront le service militaire adapté. Nous avons un troisième volet dans la formation de ces jeunes, ce qu'on appelait le savoir devenir. Chaque jeune chez nous peut être accompagné en fonction de ses difficultés par un dispositif qui a été créé par un de mes prédécesseurs, le général d'armée Laval, à l'époque général de brigade, qui a créé ce dispositif qui permet d'accompagner les jeunes les plus en difficulté. Ça s'appelle l'accompagnement médico, psychologique et social. C'est-à-dire que dans chaque régiment, nous avons une structure qui permet d'avoir un regard pluridisciplinaire sur le jeune en difficulté. Il s'agit d'un psychologue, donc chaque régiment, un psychologue qui, dont la mission spécifique est de travailler au profit des volontaires, de les aider à vaincre leurs difficultés. Donc un psychologue, un médecin, un professeur des écoles, une assistante sociale et le commandement en tant que tel. Et donc un regard, chaque trimestre, ils se réunissent pour apporter ce regard pluridisciplinaire et aider ceux qui sont le plus en difficulté. Et c'est une des spécificités du SMA, et dans le commandement du SMA, on ne peut réussir que si on est attentif à chacun des subordonnés que l'on a. Et ça rappelle ce qu'on vit dans les unités opérationnelles, dans les forces, cette attention portée à chaque individu pour qu'il participe au collectif. La mission ne pourrait pas être menée si le collectif n'est pas soudé, confiant les uns dans les autres. Et bien au SMA, par ce biais-là, on arrive à prendre en compte les cas les plus difficiles et à les remiser, la plupart du temps. Bien sûr, on a certains d'entre eux qui nous quittent prématurément ou qui ne finissent pas totalement leur formation, ou qui partent, ou qui, bon, c'est les 20% qu'on n'insère pas, en fait, hein, mais qui après vont rebondir, parce qu'on a donné des clés de lecture, des repères. Et ça fait partie vraiment de ce qu'on attend du service militaire adapté, ce qu'attendent ces jeunes, ce qu'attendent les familles de ces jeunes lorsqu'ils nous les envoient. On a vraiment des trajectoires de vie assez extraordinaires. Moi, je me souviens d'une volontaire stagiaire que j'avais au sein du régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie, qui était dans la filière aide à la personne. Cette volontaire stagiaire est devenue par la suite, après nous avoir quittés, elle est devenue formatrice dans le domaine d'aide à la personne. Aujourd'hui, elle fait passer des examens à nos volontaires stagiaires dans ce domaine-là. Ça fait 10 ans qu'elle fait ça au RSMA de Nouvelle-Calédonie. C'est une jeune femme extraordinaire qui était partie sans garde de diplôme et qui s'est formée par elle-même par la suite, après avoir été insérée. Elle avait fait une poursuite de formation, parce qu'on a soit une insertion professionnelle, soit une insertion directe en entreprise ou l'alternance, soit des poursuites de formation en CFA. Donc elle avait repris pied. Elle s'est formée et maintenant elle est formatrice au sein du service militaire adapté en tant que consultante. Et ça, c'est extraordinaire, des parcours de vie comme ça, sur des territoires où, effectivement, derrière, l'emploi des femmes n'est pas forcément des plus développées. Et là, on voit bien des jeunes femmes qui se prennent en main. Vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, 42% d'effectifs de ces volontaires est composé de jeunes femmes. Donc c'est un dispositif qui permet aussi de sortir de certains carcans et aussi de s'épanouir, de donner un avenir à des jeunes femmes qui souvent sont mères célibataires et qui retrouvent par là un moyen de rebondir, s'occuper de sa propre famille derrière.
Alors, en général, vous avez expliqué les missions principales du service militaire adapté, donc permettre de rebondir sur le plan professionnel, de s'insérer, d'apporter au territoire dans lequel il se trouve. Il y a différents volets à cette formation, avez-vous précisé? Il y a une formation d'homo et classe, une formation militaire, une formation savoir-être, et puis une formation donc venir et une formation naturellement technique au métier qu'ils ont choisi. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez en détail de cette partie sur la formation militaire et le savoir-être, parce que les jeunes qui vous rejoignent, alors je ne sais pas s'ils sont volontaires tous, vous avez parlé que les familles aussi les envoyaient, le rectorat vous les envoyait. Je pense que si vous pourriez détailler, expliquer quel est le profil type, mais il semblerait que le SMA soit plutôt une formation pour mauvais élèves et pour jeunes en difficulté, qui ont de mal à trouver leur place, qui sont en échec scolaire, parfois même un peu plus grave, peut-être un peu délinquant, un peu aussi victime des différentes crises à répétition qu'il y a sur ces territoires ultramarins. Donc, pourriez-vous faire un peu un profil type des jeunes qui vous rejoignent, pourquoi ils vous le rejoignent, et après, vous nous expliquez, pour moi, ce qui semble être la partie la plus originale, la plus importante, c'est tout ce qui touche à la formation au comportement, en quelque sorte. Ouais. Voilà. Donc, ce profil type, hein, ces jeunes.
Je vous remercie de cette question. Bon, je dirais qu'il n'y a pas forcément de profil type, d'une part. Ce ne sont pas des mauvais élèves. Ce sont des élèves qui n'ont pas pu mesurer les capacités qu'ils avaient en eux. Et c'est ça qu'on va réussir à faire valoir au travers de toutes les formations, tout aussi diverses soient-elles. Parce qu'il y a toujours ce fond de sac. De se dire, moi, j'ai des talents en moi que je peux valoriser et mettre en avant.
Vous allez leur faire découvrir leurs propres talents?
Ça fait partie
En prendre conscience?
En prendre conscience, ça fait partie aussi de ce qu'on doit réussir à faire de ces jeunes, faire en sorte qu'ils considèrent bien qu'ils ont en eux des talents cachés.
Alors comment vous faites, pardonnez-moi, je peux revenir sur le profil type, mais là c'est intriguant. Comment vous faites justement pour donner cette confiance en soi? Ils ont un potentiel, qu'ils ont des talents qui jusqu'ici n'ont pas du tout réalisé. Alors, comment faites-vous?
Ça passe déjà.
Ce sont des jeunes qui sont plutôt en situation d'échec, pardonnez-moi.
Oui, ils sont en situation d'échec bien souvent. Hein, ouais. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs qu'on a confié cette mission à des militaires.
Alors justement, on ne voit pas forcément le lien. Hein.
Alors, on ne voit pas forcément le lien. C'est le lien, il est essentiellement dû à ce fond de sac dont je vous parlais tout à l'heure, hein, du savoir-être qui est dispensé tout au long de la formation. Et c'est bien par là qu'on réussit à faire comprendre à un jeune que le sens du collectif qui se traduit dès le départ lorsqu'ils arrivent. Ils se retrouvent dans une chambre de 6 ou 8 jeunes alors qu'il n'a pas forcément l'habitude de vivre en collectivité. Je prends juste un exemple à la Martinique. La psychologue que j'ai dans la même visite de commandement qui me dit, en général, les premiers qui viennent me voir, ce sont ceux qui n'ont jamais été habitués à vivre avec quelqu'un d'autre dans sa chambre. Et c'est les premiers qui viennent me voir parce qu'ils sont mal à l'aise avec ça. Vous voyez ? Des travers qui ont eux-mêmes qui vont se déconstruire au fur et à mesure. Donc ça, c'est cette vie en collectivité. L'autre volet, c'est la conscience qu'on peut se dépasser soi-même par l'effort, tiré par le collectif toujours, encadré par des formateurs qui sont là pour justement faire comprendre qu'un objectif est atteint parce qu'il y a plusieurs pas à franchir, plusieurs étapes qui leur permettent d'arriver sur un objectif qu'ils doivent tenir jusqu'au bout. Et ce fait de tenir l'objectif qui est en fait pour nous l'insertion dans la vie socio-professionnelle, l'objectif premier, mais ça passe par des actions du quotidien.
Par exemple,
c'est l'activité sportive du matin, lorsque, après les couleurs, le lundi matin, la compagnie part derrière le capitaine ensemble, que ces jeunes vont faire un parcours de 6, 8, 10 kilomètres en fonction de la durée que ça peut prendre, vont, à travers ce goût d'effort, cette attention portée au dernier, là, celui qui n'arrive pas à courir, qui a du mal, on va l'aider, on va le motiver. Vous voyez, et ça vient tout de suite dès les deux premiers mois de formation. Vous avez des jeunes qui sont vraiment transformés. Vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, les jeunes qui arrivaient chez nous étaient souvent dans une situation où, chez eux, ils n'ont pas forcément l'autorisation de s'exprimer. Ils vous regardent, ils arrivent avec les cheveux en bataille, volumineux.
On imagine, oui.
Volumineux, pour dire oui, ils lèvent des sourcils, et s'ils ne lèvent pas des sourcils, c'est qu'ils disent non. Ils n'ont pas l'habitude de parler devant un adulte, de s'exprimer devant un adulte. Deux mois après, au moment de la présentation au drapeau, ces jeunes, ils sont transformés. Les parents ne les reconnaissent pas. Ils vous regardent droit dans les yeux. Ils sont capables de s'exprimer. Ils sont capables de ne parler d'autre chose que d'eux-mêmes. Vous voyez ? Et ça fait partie des vertus du dispositif.
En deux mois.
En deux mois.
Alors, si vous pouvez nous expliquer plus concrètement comment en deux mois vous obtenez ce résultat, parce que le problème que vous soulignez avec une jeunesse un peu en difficulté, en perdition en Nouvelle-Calédonie, c'est un constat qu'on pourrait aussi appliquer à la France, et à la métropole, je veux dire, hein, pas à la France, à la métropole, pardon. Et en deux mois, comment faites-vous pour obtenir ce résultat avec des jeunes qui n'ont pas été habitués à la discipline, aux règles de vie en commun, on parle de la politesse du savoir-vivre, qu'ils n'ont souvent pas notion. Comment faites-vous pour obtenir ce résultat en deux mois ?
Alors, en deux mois, en fait, le chef de section, hein, qui en va les aider à appréhender le plus aisément possible cet environnement militaire, va vraiment travailler autour de l'esprit de groupe, d'équipe. Vous savez, dans cette formation militaire initiale, nos volontaires n'ont pas vocation à devenir des militaires. Donc, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de tir. L'essentiel de ce qu'on fait a trait à des activités un peu techniques parfois, la topographie, l'utilisation de la radio, des choses très simples, mais qui nécessitent de comprendre l'environnement, les équipements, les procédures. Tout ça, c'est un peu technique. Mais ce qui va faire le fondement, le creuset du groupe, c'est la vie ensemble. Cette vie sur le terrain, on va faire des marches, on va faire la marche au béret, où on va aller... alors c'est très progressif tout ça, on n'oblige pas à marcher tout de suite 10 km. Hein. On y va progressivement, 5 km. Et cette progressivité, cette attention portée au soldat pour qu'il devienne meilleur à la fin, dans deux mois, qu'il atteigne l'objectif d'être capable de faire une marche de 15 km avec son sac, c'est ça qui va en fait le construire, et ça se fait dans le groupe. Et vous voyez, une marche au béret par exemple,
oui.
Vous voyez souvent dans certains reportages, les jeunes prennent le sac de l'un ou de l'autre, celui qui va ralentir, celui qui va être en difficulté. Les jeunes femmes qui parfois n'ont pas forcément l'habitude de marcher, ben, elles vont s'entraider, elles vont être aidées par les autres. Et ça effectivement, c'est par le biais du collectif, par le biais de ce qu'on peut apprendre, de notions qu'ils n'auraient jamais acquises par eux-mêmes, la topographie, pouvoir se orienter sur un axe, pouvoir ne pas se perdre et ne pas perdre ses moyens si on est perdu. Voilà, c'est ce qu'on apprend, être sur le terrain, faire du sport, respecter sa tenue, l'uniforme, chacun...
Comment leur apprenez-vous, parce que l'uniforme n'est pas forcément respecté de prime abord par ces jeunes, comment leur apprenez-vous justement le respect de l'uniforme, le respect du drapeau, et comment faites-vous ?
Alors, effectivement, enfin, pour la plupart, ils viennent quand même d'eux-mêmes, hein. Ils sont volontaires.
Ils sont volontaires, qu'ils ont décidé de rejoindre
certains de nos campagnes de communication, oui. Ils sont très bien faites d'ailleurs, en langue créole souvent, ou dans la langue du territoire, qui parlent avec un langage précis, qui s'adresse à cette jeunesse-là en particulier. On utilise souvent le biais d'influenceurs aussi, qui nous aident dans ces démarches-là.
En disant quoi ? Quel est le message ?
Alors, le message, c'est vraiment de dire que tu peux trouver un avenir, rebondir, que par le SMA, tu peux avoir un tremplin qui te permet de reprendre pied et construire ton propre chemin. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'on leur dit. Et dans nos dispositifs, on a des structures qui partent du chef de section lui-même, de ses adjoints, des chefs de groupe. Et vous voyez, l'individu, il n'est jamais livré à lui-même. Il n'est jamais tout seul face à ses difficultés. Et le fait de pouvoir voir que par l'exemple des camarades, la confiance donnée par le chef qui va lui dire « mais tu peux y arriver à cet objectif, tu peux aller plus loin, tu peux dépasser tes propres faiblesses », ça construit, ça donne de la confiance en soi et ça permet d'aller plus loin. Et je pense que si le chef de section, lui, n'est pas attentif à chacun des petits signaux dans sa section, si le chef de groupe, une dizaine de personnes, n'est pas attentif à chacun de ceux qui composent son groupe, il y a, comme on dit souvent, échec mission. C'est-à-dire que le jeune n'ira pas au bout. Soit quittera, parce que ça ne correspondra pas à ses attentes, soit en fait va se retrouver dans ses propres faiblesses et ne sera pas capable de pouvoir aller de l'avant. Et l'idée, c'est vraiment d'emmener ce groupe le plus loin possible. Et l'élément fédérateur, c'est cette présentation au drapeau. Vous rappelez le sens de ce que représente le drapeau, oui.
Au bout de deux mois. C'est ça, avec la marge de 15
voilà.
km.
Et en général, on fait ces présentations au drapeau, non pas au sein des régiments, mais à l'extérieur. Voilà, pour rayonner, pour montrer
devant
les vertus du service militaire adapté. Exactement, devant les familles qui viennent souvent très nombreuses. En Nouvelle-Calédonie, c'est incroyable de voir les familles font des kilomètres, hein, des centaines de kilomètres pour venir voir leurs jeunes à la présentation au drapeau. La veille au soir, on fait la veillée au drapeau, comme dans toutes nos unités des forces armées, la veillée au drapeau. Ce moment de recueillement pendant une heure, à côté de son binôme.
Ils adhèrent.
Sans...
Et comment comprendre cela, hein? Vous arrivez à un tel résultat. Quand on voit, on voit bien ce qui se passe dans certains de ces territoires ultramarins où le drapeau français n'est pas ce qui semble être forcément le plus respecté. Comment, auprès de ces jeunes qui sont des jeunes difficultés, qui sont issus de milieux qui ne sont pas forcément aussi respectueux hein, de la France, etc. Comment vous arrivez à obtenir ça? C'est ça. Alors, qui est incroyable.
C'est moins incroyable qu'en fait, derrière, on se fonde sur des valeurs qui sont partagées. Dans la culture kanak, la culture du sol, de l'ancien, de l'ancêtre, ce lien avec le ciel, c'est des vertus qu'on retrouve au travers de notre propre langage, c'est-à-dire la culture de nos propres, de notre terre, la patrie, la culture de ceux qui sont morts au combat, en opération, qui ont défendu le pays. Et ça, ils y sont très attachés. Ça leur parle complètement. D'ailleurs, vous allez dans les tribus, en Nouvelle-Calédonie, vous avez des cases coutumières, avec cette flèche fêtière qui montre le lien entre la terre et le ciel. Et on joue beaucoup là-dessus. Typiquement, en Nouvelle-Calédonie, quand je suis arrivé, le régiment n'avait pas de cases, n'avait pas de lien avec les traditions kanak, en fait. Et on a créé des cases coutumières dans chacune des compagnies. À l'époque, il y avait une compagnie à Kumak, dans le nord de Nouméa, 450 km, de Nouvelle-Calédonie à 450 km de Nouméa et à Koné. Donc on a créé des cases coutumières dans chacune de ces compagnies. Et les jeunes, avant de passer, d'arriver à la présentation d'un drapeau, le soir, faisaient la veille du drapeau sous la case coutumière. Vous voyez la symbolique, la force que cela peut représenter.
Qu'est-ce que c'est une case coutumière?
Alors, une case coutumière, c'est vraiment, c'est dans la culture kanak, c'est là où en fait on se rassemblait, c'est là où on palabre, c'est là où on prend les décisions, c'est là où on se renoue avec la terre et avec cette symbolique d'élévation vers le haut. D'ailleurs, ça avait vraiment une forme de cette case, une espèce de pyramide avec cette flèche fêtière. Et vous voyez, ça c'est symbolique, elles sont fortes, ça parle aux jeunes. Ça parle aux jeunes à mesure où, en plus, on fait attention à... dans les armées, on aime bien chanter aussi. C'est fédérateur, le chant. Le chant de la section qui, le matin, pour aller au petit déjeuner, au dîner, lorsqu'elles se déplacent en chantant. Et en Nouvelle-Calédonie, donc nous avons décidé que chaque contingent devait préparer par eux-mêmes un chant en langue kanak et chanter en langue kanak. Souvent, quand je suis arrivé de là, les chants qui étaient chantés étaient souvent des chants polynésiens. Et je trouvais que la résonance qu'eux-mêmes puissent élaborer leur propre chant. Pendant la période de 2 mois là, pour arriver jusqu'à la présentation de drapeau et à la présentation de drapeau, lorsqu'ils défilent, ils défilent avec leur propre chant en langue kanak. Enfin, il y a 26 langues vernaculaires en Nouvelle-Calédonie.
Ah oui.
Voilà. Donc l'idée, c'est de trouver quelque chose qui soit assez fédérateur. Voilà. mais ils y arrivent. Ils arrivent à faire de belles choses. Et ils sont fiers. Ils sont fiers. Ils sont fiers de pouvoir chanter, de pouvoir être ensemble. Et alors on fait de temps en temps, on ferme les yeux sur le rite avec lequel ils avancent en défilant, puisqu'ils ont souvent un pas encore plus long que celui de la Légion.
Ah oui.
Mais voilà, ils sont au travers de cet exemple-là, on voit bien qu'on crée une dynamique, qu'on crée un esprit de groupe et une certaine fierté. Vous voyez, il suffit de voir juste la réaction des parents derrière. Au moment du petit cocktail qu'on organise toujours après la présentation de drapeau. C'est vraiment un moment de fierté. Chacun se prend en photo, veut prendre la photo avec l'adjudant, chef de section, avec le caporal-chef, chef de groupe. Vous voyez, on voit bien cette effervescence. Donc tout ça, ça se fait en 2 mois. Ça se fait en 2 mois parce que les gens ont appris à vivre ensemble, à se respecter et à pouvoir atteindre leurs objectifs au travers du rôle du chef de section et de ses subordonnés. Et ça, c'est essentiel. Et donc, ils sont cadrés, bien sûr, tout ça, c'est bien. L'instruction qui est dispensée est très cadrée, normée. Voilà.
Ça, ce sont 2 mois donc, de formation commune, militaire, standard, entre guillemets, qui leur permettent justement d'accueillir cette fierté, hein, cette dignité, en quelque sorte, de la retrouver pour leur donner confiance en eux et passer ainsi à l'étape suivante de la formation. Alors, bon, en général, nous allons le faire. Je vous propose de faire une petite pause. Nous reviendrons sur cette formation, si vous voulez bien. J'aimerais bien que vous nous précisiez c'est quoi une journée type.
Oui.
À quelle heure il se lève? Parce que quand on voit les films, on voit des chambres, des chambrées, effectivement. Vous avez expliqué toute la difficulté pour des jeunes qui ne sont pas habitués à vivre en collectivité, d'accepter la chambrée. Les chambrées sont parfaitement rangées. Alors, à quelle heure il se lève? Ça commence par quoi? Que font-ils de cette journée? Et j'aimerais bien que vous nous détailliez ça. Et puis j'aurais plein d'autres questions aussi à vous poser sur les autres acquis que vous voulez leur transmettre. Notamment, vous incitez beaucoup sur les valeurs. Donc j'aimerais bien que vous nous parliez des valeurs. Nous parlerons bien sûr des formations professionnelles. J'aimerais bien savoir s'il y a des problèmes de discipline. S'il y a des problèmes de drogue, de ce genre de choses qui sont un peu de notre époque, comment vous traitez ça? Et puis, parler aussi de l'avenir de ces jeunes. Est-ce que certains vous rejoignent? Quel est l'intérêt pour, au-delà de servir à l'intérêt général, quel est l'intérêt pour le monde militaire? Est-ce que certains vous rejoignent, poursuivent, etc.? Enfin, plein d'autres questions à vous poser en général. Après cette première pause, alors, je ne sais pas quelle pause musicale vous les choisissez. Je veux dire, la première, soit l'hymne des 60 ans du service militaire adapté, il faudra qu'on parle un petit peu aussi de l'histoire, et puis, ou alors deux, le chant Nouvelle-Calédonie.
On vient de parler de Nouvelle-Calédonie, donc prenons le deuxième.
On prend le chant Kanak. Alors, ça, c'est un chant qui a été composé.
Oui, par les jeunes au moment pour leur représentation de drapeau.
Pour leur présenter, c'est récent cette...
Alors, celle-ci doit être assez récente, oui, oui effectivement.
Donc c'est... Mais
vous voyez, on a des contingents tous les 2 mois, donc...
D'accord. Kuatoka. Je ne sais pas ce que ça veut dire en Kanak, Kuatoka.
Je vous avouerai que je ne sais pas non plus.
Donc, nous écoutons cela en pause musicale, et puis bien sûr, nous poursuivons notre discussion.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Maiau o meite colo au e
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après avoir écouté ce chant, Kouatoka, qui est un chant kanak, composé par les jeunes kanaks du service militaire adapté en Nouvelle-Calédonie, à l'occasion donc de leur présentation au drapeau au bout de 2 mois, ça fait partie effectivement de leur formation au savoir-être. Composer un chant qui rend en quelque sorte un chant de promotion, dont ils seront fiers et qu'ils chanteront effectivement devant leur famille, notamment leurs amis. Et c'est tous les 2 mois, c'est ça.
Tous les mois, les cohortes se succèdent régulièrement et vous voyez l'énergie qu'il faut avoir, l'attention qu'il faut avoir pour être dans ce type de commandement lorsque les formations militaires initiales s'égrènent tous les 2 mois. Donc ça incite beaucoup d'engagement de la part de nos cadres.
Nous allons parler, mon général, effectivement, de l'encadrement. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qui pourraient prendre cette émission en cours de route que nous avons le plaisir de recevoir le général Bellon qui commande le service militaire adapté. Dans un premier temps, le général Bellon nous a expliqué ce qu'était que ce service militaire adapté. Cette année, son 65e anniversaire, c'est donc une forme de service militaire qui est adapté aux territoires ultramarins, il y a en Nouvelle-Calédonie, on vient d'entendre un des chants de ces jeunes marsouins. Ce sont des marsouins
Oui, ils sont marsouins.
Au bout de 2 mois, après la présentation au drapeau, ils ont le béret.
Alors, ils n'ont pas tous le calot, parce qu'en fait, le calot, ils ont tous le béret.
Le béret, c'est ça.
Avec l'encre de marine.
C'est différent. Voilà.
C'est important parce qu'en fait, derrière, il y a cette communauté. En fait, on est tous et d'ailleurs, tous nos régiments, on compte 62% de cadres ici, des troupes de marine. Donc, ils sont quand même composés de personnes militaires qui viennent d'horizons différents. Et c'est au travers de l'encre de marine qu'on fédère tout le monde. Typiquement, au 31 août, nous faisons Bazeille, cette fête du grand rassemblement des troupes de marine. C'est un moment fédérateur qui permet aussi de créer la cohésion du groupe. Et donc, nos jeunes aussi portent le béret en général, l'encre de marine, et sont des marsouins parce qu'ils sont sous statut militaire pendant toute leur formation.
C'est ça. Et donc, au bout de 2 mois, après la présentation au drapeau, on les considère comme des membres de ce corps d'élite qui est les troupes de marine, c'est ça?
Exactement. Enfin, ils font partie du corps, du régiment à part entière.
Ils font partie du régiment à part entière. Pour eux, c'est une grande fierté, je pense.
On parle d'esprit de corps, on parle de chef de corps.
C'est ça.
Voilà, c'est bien ça. Et cette fierté, d'ailleurs, quand vous rencontrez des anciens volontaires, ça c'est extraordinaire. De voir des anciens volontaires qui reviennent au régiment pour voir leur frère, leur cousin ou leur enfant. Rejoindront au moment de la présentation de drapeau, vous les voyez porter le calot, quand certains ont pu l'avoir, quand ils ont poursuivi leur formation.
On va parler finalement de ceux qui poursuivent. Donc, ce service militaire adapté qui forme 5800 jeunes par an, j'ai été très impressionné par le chiffre annoncé pour la Nouvelle-Calédonie, un jeune sur trois, un jeune kanak sur trois, c'est ça.
Exactement.
Qui passe par le service militaire adapté, c'est extrêmement important. Est-ce qu'on a les mêmes ratios sur les autres territoires? Alors, il y a Mayotte, il y a La Réunion, il y a la Guadeloupe. Et la Martinique?
Nous irriguons tous les territoires d'outre-mer, des Antilles jusqu'à la Polynésie. Et donc, sur les trois océans, le SMA œuvre au profit de cette jeunesse. Et donc, l'essentiel, en Nouvelle-Calédonie, la structuration de la société est telle qu'on différencie, qu'on peut prendre en compte le fait que ça touche plus de Kanaks que de jeunes d'origine européenne derrière, parce que c'est aussi l'héritage de ce régiment lorsqu'en 86, il s'installe là-haut dans le nord, à Comac. C'est bien pour participer au rééquilibrage du territoire, prendre en compte une jeunesse dans ces territoires qu'il fallait remobiliser, pour participer eux-mêmes au développement du territoire. Donc ces jeunes, pour la plupart, étaient d'origine kanak. Mmh. Aujourd'hui, on commence à avoir des jeunes qui viennent, notamment dans la compagnie que nous avons à Bouraï. Donc c'est au nord de la province sud. Vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a trois provinces, province sud, province nord et les îles Loyauté. Et donc, on commence à voir des jeunes qui viennent, qui ne sont pas forcément d'origine kanak. Mais les choses se passent bien et ça se... Voilà, c'est aussi cette population qui était la plus en difficulté, la plus éloignée de l'emploi. Certains avaient quitté l'éducation nationale au moment du collège, sans même aller jusqu'au bout du collège, sans même avoir le brevet des collèges. Et donc, du coup, on se retrouve pendant toute une période de vie, entre cet âge-là, hein, 15 ans jusqu'à 18 ans. Ils sont livrés à eux-mêmes, l'idée, c'est vraiment de les remobiliser.
Et ça qui est impressionnant, c'est qu'en deux mois, vous les remobilisez.
Oui.
Entre plusieurs années, ils sont livrés à eux-mêmes, avec toutes les crises qui se produisent, j'imagine, et les tentations, etc. Et en deux mois, vous les remobilisez. C'est assez impressionnant. La question que j'aimerais vous poser, quand même, est-ce que durant ces deux mois, vous avez des problèmes de discipline, des problèmes de drogue, des problèmes de violence, que sais-je encore?
Alors,
et comment vous faites face à ça?
C'est vrai que dans chaque on est confronté aux mêmes difficultés qu'on peut retrouver dans la société de manière générale, hein, avec effectivement des jeunes qui parfois d'une part refusent la hiérarchie, donc c'est un travail derrière de persuasion.
Comment vous faites, pardon, mais un exemple, les refus de la hiérarchie, ça se manifeste comment et comment?
Alors souvent des refus d'obéissance, tout simplement, ou des paroles mal à propos, des invectives qui peuvent arriver, mais c'est vraiment, je vous assure, c'est très rare. C'est rare. Et quand ça arrive, quand ça arrive, l'ensemble de la chaîne de commandement se mobilise. Et d'ailleurs, les premiers qui réagissent par rapport à ce genre de comportement, ce sont souvent ce qu'on appelle les petits gradés, les caporaux. Les caporaux qui sont, une partie de cette hiérarchie. Ouais. Dans une section, vous avez un chef de section, un adjudant, un sergent-chef, des adjoints qui sont sergents ou caporaux-chefs, quand j'ai volontaire, et en dessous des caporaux. Les caporaux sont souvent des volontaires techniciens, ceux qui sont justement diplômés, qu'on remobilise vers l'emploi par des contrats successifs d'un an jusqu'à 5 ans. Et ce sont souvent eux qui détectent les comportements des uns et des autres qui d'une part, le traitent à leur niveau en rétablissant. Et c'est là on voit bien que cet aspect très... ça a percolé. Ça percole jusqu'au caporal qui va reprendre ce jeune. Et après, effectivement, derrière, c'est toute la chaîne de commandement qui va être solidaire. Donc, en général, lorsque on passe d'abord par de l'éducation, on communique, on fait de la communication avec eux. Mais après, quand ils dépassent...
Comment dire concrètement, vous le recevez seul, en tête-à-tête?
Oui,
vous
ils sont reçus par le chef de section, ils sont reçus par le chef de section qui traite avec eux le problème, et lorsqu'ils rompent la discipline, lorsqu'ils font des fautes, ils sont sanctionnés.
Ils sont les mêmes sanctions que dans l'armée, c'est
quoi? Oui, c'est les mêmes sanctions, ils sont sous statut militaire, donc ils sont sanctionnés de la même manière. Donc voilà.
Et ça règle le problème en général?
Ça règle le problème bien souvent, heureusement. Mais quand ça ne règle pas, effectivement, c'est des jeunes, ça fait partie des 20% de jeunes qui nous quittent sans avoir tiré le bénéfice de la chance qu'ils avaient pu avoir de venir chez nous. Voilà, donc on applique les mêmes règles que dans les autres unités militaires. Ils sont sous statut militaire. Voilà. Concernant les addictions dont vous parliez, effectivement, les addictions, c'est incompatible du statut militaire. Pourquoi? Parce qu'on engage sa propre sécurité, la sécurité des autres, la sécurité des matériels, ça nuit à la mission, et donc ça, c'est incompatible. Donc, on est très strict là-dessus, donc nous sommes très attentifs à ça, et ça, c'est aussi valable pour l'ensemble de l'armée de terre, d'où je reviens. C'est aussi valable pour toutes les armées. Une instruction récente de décembre 2025 sur... justement pour la lutte contre les substances psychoactives, rappelle toutes les règles qui sont connues depuis, voilà, depuis longtemps, enfin qui sont adaptées depuis longtemps dans nos unités, pour justement traiter de manière sans aucune volonté ferme d'aboutir les cas les plus déviants. Et typiquement, un jeune qui a des addictions aux stupéfiants, à l'alcool, bien, typiquement, ils ne pourront pas passer leur permis. Un des moyens, un levier de recrutement du SMA, c'est de permettre à ces jeunes de venir au SMA et d'avoir 100% d'entre eux ont le permis. Ouais. Et donc, on ne les présente pas au permis. Donc, ils ratent une chance de pouvoir eux-mêmes, après, construire leur propre liberté. Vous voyez, donc ça, on est très ferme là-dessus. Nous n'avons aucun état d'âme à sanctionner les jeunes qui sont en difficulté. Mais ça passe aussi par tout un travail d'approche où on fait comprendre à ce jeune à quel point il se nuit à lui-même, il nuit à ses camarades, il peut mettre en danger ses camarades. Donc, dans la très grande majorité, ça fonctionne. Quand ça ne fonctionne pas, c'est que...
Et quand ça ne fonctionne pas, vous séparez de la personne ?
Oui, on sépare de la personne. Oui. Déjà, dès le départ, il y a des 6 mois de période probatoire. 3 mois, 3 fois 3 mois, 2 fois 3 mois. Donc, d'un commun accord, le jeune peut nous quitter comme nous lui pouvons lui dire de nous quitter. Ça. Après, lorsqu'on a passé ces périodes-là, eh bien, derrière, on l'incite à aller jusqu'au bout, mais ça, c'est certain. Mais il va accumuler des sanctions et derrière, il ne pourra pas être présenté au permis. Et derrière, on ne fera pas vraiment plus d'efforts pour lui. Et encore, ce n'est pas vrai, puisque les chefs de section prennent, même dans les cas les plus difficiles, s'intéressent à leur insertion, parce que c'est la mission première.
Quel pourcentage de ceux qui ne vont pas au bout, justement, pour ces raisons-là ?
Alors,
soit qu'ils jettent l'éponge, soit vous leur dites « non, ça ne va pas ».
Alors qu'ils ne vont pas au bout, enfin, il y a 10% d'attrition dans nos régiments à peu près, globalement, sur 10%. les 7 régiments. Ce n'est pas énorme.
Non, ce n'est pas scandaleux.
Énorme. Et sur l'ensemble de ceux qui restent, il y a 80% des jeunes qui sont insérés. Donc les 20 autres pourcents nous quittent. Mais souvent, lorsqu'ils nous quittent, ils reviennent quelques années après. Là, et ils sont aidés par un dispositif qui est en place depuis 2021. Ça s'appelle la fondation du SMA, qui a une action complémentaire à la nôtre. Et dont le but, c'est justement d'aider des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'auraient pas, après un passage chez nous, réussi un permis, réussi une formation, et bien certains jeunes reviennent vers nous.
Pour une autre formation professionnelle.
Exactement. Et ça fonctionne. Oui. Nous avons 150 dossiers par an, à peu près, dans l'ensemble des Outre-mer. Voilà, et vous voyez, ça, c'est un dispositif qui a trouvé sa place. Mmh. Bon, après, il y a des jeunes qui seront incurables et qu'on ne pourra pas, malheureusement, faire plus pour eux.
La formation militaire, 2 mois, c'est ça ? Enfin, militaire,
Et tout au long du processus.
Et en parallèle, tout au long des formations professionnelles qui commencent 2 mois après, c'est ça ? Les formations professionnelles commencent 2 mois après.
Complètement.
Donc pour 8 mois, mais tout au long, il y a quand même des formations.
Voilà, il y a ce savoir-être, il y a les sorties terrain, il y a les sorties, les activités sportives.
Jusqu'à la fin.
Et il y a aussi, dès le matin. On se lève à 4h30.
Alors, oui, justement, une journée type, c'est intéressant, parce que 4h30 du matin, on fait très bien.
On va commencer par la semaine type, on commence dès le lundi, c'est les couleurs, voilà. Et pour préparer les couleurs...
4h30 du matin.
4h30, se lèvent, après, ils font leur chambrée.
Tous les matins.
Oui, leur chambrée, ils nettoient, TIG, travaux d'intérêt généraux, là, tous ensemble. Ils vont prendre leur petit déjeuner, rassemblement de la compagnie, rassemblement.
À quelle heure, le rassemblement ?
Alors, en général, c'est entre 6 heures, vous voyez, le temps de faire. Voilà, c'est entre 6 heures, c'est en général, tôt. C'est 6 heures. C'est tôt le matin. Outre-mer, on se lève tôt, en fait.
Oui, c'est vrai. Que,
Outre-mer, le soleil se lève tôt.
Il fait très chaud après.
Il fait nuit tard. Il finit tôt aussi, pardon. Et donc, on commence, et surtout, il peut faire très chaud. Et donc, pour faire. En général, toutes nos sections font sport le matin, quasiment tous les matins. Vous voyez, donc ça, c'est le tronc commun qu'on maintient tout le long.
Le tronc commun, donc. Réveil, travaux d'intérêt généraux, on nettoie,
on s'achambre, les toilettes, les communs, voilà, c'est important. Ça participe aussi à la prise de conscience que l'effort que fait la République en mettant en place des logements, des hébergements de qualité en plus, où qu'on est en train de remettre à niveau, eh bien, ils méritent d'être entretenus. C'est leur environnement, c'est chez eux. Pendant les mois qui vont passer chez nous, ils sont chez eux. Ils sont en famille. Et donc, cette attention portée à leur hébergement, au rangement méthodique de leur lit le matin, le lit au carré, le lit en batterie, c'est-à-dire qu'on défait ses draps pour les aérer, tout ça, c'est des choses qu'on apprend et qui restent tout le temps, tout au long de sa vie. prendre 2 minutes sa douche et pas plus, parce qu'on économise de l'eau et que derrière il y a du monde qui attend. Tout ça, ça fait partie des petites choses qui se passent dès le matin, très tôt, et le petit déjeuner en chantant dès le matin pour bien se réveiller, voilà. Et à l'issue, la séance de sport en général, avant de commencer la journée. Donc les journées sont assez longues, les matinées sont très longues, donc il y a des pauses vers 10h, là. En général, les petits casse-croûtes, parce qu'ils sont levés tôt. Le midi, le déjeuner en commun, on arrive là encore en chantant à l'ordinaire pour aller partager le repas en section, donc ils sont tout le temps ensemble. Voilà, vous voyez, tout au long de... Et ça dure 8 mois, 8, 10, 12 mois. Ils sont tout le temps ensemble. Ils apprennent à vivre tout le temps ensemble, quelles que soient leurs difficultés, leurs problèmes entre eux.
Et pendant tout ce temps-là, ils sont pas de gymnastique, en chantant
même. Bon, en général, pas forcément pas de gymnastique, non. Mais en chantant pour se déplacer d'un, à l'ordinaire.
Mois, même en formation professionnelle.
Surtout au début, en fait, justement, pour que tout ça se maintienne, ça soit entretenu. Ouais. Et après, ils partent près de la séance de sport, ils rejoignent leur filière de formation. Et là, ils ont un cadre qui a été recruté pour ses compétences techniques. Ce sont des engagés volontaires, qu'on dénomme engagés volontaires du service militaire adapté. Ce sont des jeunes qui viennent de tout horizon, qui viennent de l'Hexagone ou des Outre-mer, qu'on recrute pour leurs compétences techniques. Et c'est eux qui vont délivrer le savoir-faire. Donc vous avez des jeunes qui sont souvent, en général, ils ont un BTS ou une licence pro. Voilà, c'est le niveau auquel... Parfois, moi, j'ai eu quelques-uns qui avaient des niveaux supérieurs. Ils ont vraiment la maîtrise technique. Donc ces jeunes, on les recrute. Ils font 3 mois de formation militaire initiale à Angoulême, aussi à la 9e brigade de marine. Je salue au passage ma brigade de cœur. 3 mois à Périgueux, où ils font de la formation de formateurs. Une fois ces 6 mois réalisés, ils partent dans les régiments pour pouvoir devenir des formateurs à part entière. Ils restent chez nous jusqu'à 11 ans de service. Vous voyez ? Et donc, la plupart restent à peu près jusqu'à 8 ans en moyenne. Mmh. Mais certains vont jusqu'au bout des 11 ans. Et donc, ces formateurs, le but, c'est aussi d'entretenir chez eux les qualités militaires qui font les leurs et qui font que c'est de la pédagogie qui sera... déployé par le chef de section, lui, qui va intégrer ce formateur, aussi soit cohérente. Il faut que le chef de section et le formateur parlent le même langage en termes de formation militaire, pour que, effectivement, ce savoir-être qui fait le fond de sac de ce qu'on fait au profit de ces jeunes soit maintenu et soit cohérent.
Et alors, c'est les spécialistes techniques donc, qui ont le fond de sac commun, l'esprit militaire, le sort, l'esprit de corps, etc. Quelles sont les spécialités techniques sur lesquelles ils forment ?
Alors, nous avons 91 métiers différents, donc vous voyez, ce qui fait que les formateurs ont des formations très variées. Vous avez aussi bien des personnes qui viennent du monde agricole, donc qui vont aller vers les filières agricoles, du monde du bâtiment, du monde de l'électricité, du numérique, du monde du STAPS, de la partie sportive, parce qu'on a des filières qui sont assez demandées dans l'agent de prévention de sécurité, par exemple, vous voyez. C'est une filière qui est souvent demandée par les jeunes, notamment les jeunes garçons. Ils ont tous des diplômes, je vous disais tout à l'heure, entre le BTS, en général licence pro. Donc ils délivrent ce savoir-faire. Et l'idée, c'est vraiment que ces formateurs, ils conservent l'esprit militaire tout au long aussi de leur parcours chez nous. Donc régulièrement, eux-mêmes vont sur le terrain, on les extrait de leur section, on les fait participer à la formation militaire initiale pour qu'ils reviennent aux fondamentaux militaires, pour que tout ça ne soit pas perdu de vue, qu'ils ne soient pas concentrés que sur le côté technique de leur métier. Mais leur but, c'est vraiment de faire acquérir à ces jeunes les fondamentaux du savoir-faire qui vont être leurs pendant la formation qu'ils ont.
Et c'est ça qui va permettre aux jeunes de trouver justement, pour 80% d'entre eux, c'est un chiffre impressionnant, du travail. Et la majorité d'entre eux, c'est quand même un révélateur, c'est en CDI. C'est à la fois donc ses compétences techniques et comportementales, ses qualités générales comportementales. Ça rend vraiment hommage à l'efficacité de votre formation, parce qu'en effet, l'excellence professionnelle, c'est à la fois de la maîtrise technique et du comportement. Oui. Et c'est ce qu'on comprend. Grâce à vous, Général Bellon, tout l'objet et la réussite de ce service militaire adapté. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Malheureusement, il nous reste un quart d'heure.
On pourrait en parler des heures.
À passer à votre compagnie. Si vous voulez, je vous propose pour ce dernier quart d'heure, à moins que vous, bien entendu, souhaitez préciser d'autres thèmes que ce que je vais vous proposer, il n'y a aucun problème là-dessus. Je voudrais que vous évoquiez, ça c'est quelque chose auquel vous attachez beaucoup d'importance, c'est les valeurs. Les valeurs, quelles valeurs vous avez? On a commencé bien sûr à l'aborder un petit peu à travers l'exposé de ces deux premiers mois de formation. Quelles valeurs vous voulez leur transmettre? Comment vous les transmettez? Et il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est le serment.
Oui.
Le fameux serment, qu'est-ce qu'il y a dans ce serment que prononce chaque jeune, hein? Ça c'est la première chose que je voudrais aborder. La deuxième chose que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est l'encadrement. Alors, parce qu'il faut quand même avoir une vocation particulière pour transmettre tout ça, le technique et le comportement à ces jeunes qui sont des jeunes en difficulté lorsqu'ils arrivent chez vous, qui ont perdu confiance en eux, en l'avenir, etc. Vous leur rendez tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a un encadrement particulier? Est-ce que cet encadrement a des qualités particulières? Qui est cet encadrement? J'aimerais bien que vous en parliez. Parler aussi un peu de l'organisation,
oui.
les effectifs, etc. Quoi. Mmh. Il y a beaucoup de régiments, ce sont des régiments
régiment.
À travers ces territoires. L'organisation, puis moi j'aimerais bien terminer aussi, si vous voulez bien, à moins que vous ayez encore d'autres sujets à aborder, c'est que moi je suis impressionné par l'efficacité et les résultats que vous obtenez. Est-ce que ça, ce n'est pas applicable à la France? Ou peut-être sous une autre, mais à la métropole, pardon, je ne devrais pas dire la France, pardon, parce que tous ces pays, c'est la
exactement.
France. Hein. Mais pardon, mais non, à la métropole, est-ce que ce n'est pas applicable à la métropole, peut-être sous un autre nom, peut-être que ça existe et que nous l'ignorons. Et puis, une question que je vous pose tout de suite d'ailleurs, c'est que on a évoqué que 80% d'entre eux trouvaient donc un emploi, 69% un CDI, mais il n'y a pas qui vous rejoignent, il n'y a pas qui finalement sont attirés par cette vie militaire que vous leur présentez.
Oui, exactement.
Est-ce qu'ils vous rejoignent? Quelle est la part d'entre eux? Ou peut-être simplement ils rejoignent une forme de réserve, je ne sais pas.
Alors l'idée c'est vraiment que le service militaire adapté n'a pas pour vocation de faire des militaires, d'une part. D'autre part, vous avez quand même des jeunes qui viennent pour nous, chez nous, pour comme un tremplin vers les armées.
Oui.
Donc 14% d'entre eux rejoignent les forces armées de manière générale. La plupart d'entre eux vers l'armée de terre, mais pas seulement. Vous avez de plus en plus de jeunes qui viennent vers l'armée de l'air et l'espace, ou la marine. Voilà. Donc, sans compter ceux qui partent dans la gendarmerie, ou la police, pour sortir du milieu militaire. Donc vous voyez, on a un volume certain d'entre eux qui rejoignent les forces armées, qui sont d'ailleurs, avaient vocation déjà au départ à le faire et voulaient repréciser leur projet professionnel. Lorsqu'on détecte qu'un jeune, effectivement, a le bon profil, on ne va pas empêcher d'aller vers les armées, au contraire. C'est justement ce jeune qu'on sait qui va aller de l'avant, ce métier est fait pour lui, qu'il est capable de... qu'il y a une notion de sacrifice, une notion de donner de soi. Voilà, pendant plusieurs années au profit du pays, est bien ancré, ou s'ancre progressivement là, dans ces mois de formation, eh bien on va effectivement l'aider à rejoindre les forces armées grâce au partenariat que nous avons avec les centres d'information et de recrutement des forces armées. Donc on travaille en lien direct avec eux. Hein, mais la vocation première, c'est vraiment de faire en sorte que nos jeunes restent sur le territoire en général et participent au développement du territoire au travers des différentes filières que nous leur faisons acquérir. Mais 14%, c'est bien, déjà.
Oui, c'est un bon chiffre. C'est quand même 600, 700, même plus. Voilà. Hein, 700 à 800 jeunes par an de ces territoires ultramarins qui rejoignent l'armée. C'est effectivement un beau résultat. Alors, les valeurs.
Les valeurs
et le serment. Je suis très intrigué par ce serment.
Les valeurs de discipline.
Parce qu'en 2026, des jeunes dans les territoires ultramarins qui font encore des serments.
Oui, alors c'est le code du volontaire.
Oui.
Ce code du volontaire est récité par les jeunes à chaque fin au moment de la présentation de drapeau.
Donc au bout de 2 mois.
Au bout de 2 mois. Nous avons une cérémonie en général qui a lieu à l'extérieur de nos régiments. Quand ça a lieu à l'intérieur du régiment, c'est des raisons conjoncturelles. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller au contact des populations, au contact des autres, pour montrer ce que le SMA apporte, est capable de la manière dont il est capable de rayonner. Et donc ce code du volontaire, il est récité en général par le major de promo qui se met du contingent, qui se met devant toute la troupe. Alors vous avez quand même tout le régiment réuni, hein, des familles, des volontaires qui sont là, présentes, et ils lancent le ton, ils lancent ce code du volontaire dans lequel on s'engage. Ah oui, tout le monde reprend derrière. Et c'est poignant, c'est extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est que ce que dit-il? Qu'est-ce alors, que c'est que contient ce
il récite l'engagement qui est le sien, d'aller, de respecter ses camarades, de respecter la discipline, d'aller au bout de son engagement, d'aller au bout de sa formation, de valoriser l'image du service militaire adapté, que ce soit pendant sa formation et au-delà de sa formation, d'aller au bout de ses objectifs. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'ensemble de ce code du volontaire. Et toutes ces valeurs-là, elles se trouvent dans ce code. C'est un peu comme le code du soldat, en fait. C'est tiré d'ailleurs du code du soldat, mais c'est adapté à ce que nous faisons au sein du service militaire adapté. Et moi, lorsque je suis présent dans une présentation au drapeau, je rappelle systématiquement que cet engagement qu'ils prennent là devant nous, là, devant le drapeau, et ça, c'est symbolique, elle est forte, voilà, devant le drapeau, devant leur cadre, devant leur famille, ça les engage. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Je prends juste l'exemple de la Nouvelle-Calédonie. Une parole donnée, c'est une parole donnée. Voilà. En ce moment, parfois, bon, le contraire.
Ça, c'est dans le code qu'ils prononcent ?
Oui. Et c'est ce qu'on leur appelle. Et donc, c'est important, ça. Qu'ils sachent que ce code qu'ils ont récité ensemble, devant tout le monde, est quelque chose qui est profondément un moyen de se valoriser eux-mêmes, mais aussi de se lancer dans la vie, en fait, par le respect de ce code. À l'extérieur du régiment, comme à l'intérieur du régiment, ils doivent être exemplaires. C'est ce qu'ils disent aussi dans ce code. Et donc, on le rappelle, hein, moi je le rappelle systématiquement, donc, que cet engagement les tient pour le reste de leur vie. Voilà. Et c'est ça, en fait, les repères qu'ils conservent par la suite. Derrière, je vous prends juste un exemple. J'étais en Polynésie française. Et donc, j'ai eu la chance, après, au moment de la passation de commandement du chef de corps, de pouvoir aller visiter très rapidement la vague de Taupo, là où se trouve, on faisait la vague des Jeux Olympiques. Et il s'avère que le capitaine du bateau qui nous emmenait auprès de la vague, qui était très méticuleux, très carré, respectueux de la sécurité, qui me dit, là, en général, enfin non, je ne savais pas que j'étais en monsieur, vous pouvez vous baigner. Là, à cet endroit, je vous assure, vous êtes en sécurité. Ici, les requins sont végétariens. Mais il nous ramène sur la côte. Et j'ai dit, vous savez comment j'ai eu votre adresse, monsieur? J'ai eu votre adresse grâce au service militaire adapté. C'est eux qui m'ont dit, allez voir le capitaine Intel, hein, enfin, capitaine de ce bateau. Et vous serez en sécurité, vous verrez, il va vous emmener au bon endroit et vous verrez des choses extraordinaires. Et il me dit, oui, mais moi, j'ai commencé au SMA il y a 18 ans. J'étais le premier là, qui a créé la compagnie dans un îlot des Australes, à Toubouai. J'étais les premiers de cette compagnie-là. Et ça m'a toujours construit, ça m'a aidé tout le temps. Et vous voyez, aujourd'hui, ce métier que je fais, je le dois parce que j'étais au SMA. Alors, lorsque j'ai dit que j'étais le général qui commandait le SMA, je peux vous dire que c'était une fête extraordinaire. Vous ne pouvez plus partir. Donc, ouais. Vous voyez, cet exemple, il montre bien qu'au-delà du code du volontaire, qu'ils récitent à ce moment-là, la présentation de drapeau, ils le maintiennent, ils le conservent, et ça peut créer des parcours de vie. Ça permet des gens de s'en sortir, de leur donner des repères, et des repères qu'ils garderont tout au long de leur vie. Et c'est ce qu'on souhaite et ce que veulent la majorité d'entre eux, en fait. C'est en fait sortir de leurs difficultés, trouver un moyen de rebondir et de se créer un nouvel avenir. Alors c'est pas que des mots, c'est très concret. Vous voyez ce capitaine, et on a plein d'exemples comme ça de sous-officiers, par exemple, pas forcément des taux de marine, de l'armée de terre qui ont commencé volontaires stagiaires. Typiquement dans mon état-major, j'ai deux sous-officiers là, qui ont commencé comme volontaires stagiaires. Mon chancelier qui est responsable des notations, discipline, décoration.
Ils ont commencé comme volontaire stagiaire.
Elle a commencé une femme qui a commencé comme volontaire stagiaire à La Réunion. Maintenant, elle est adjoint chef. Et elle brigue. Je pense qu'elle a toutes les qualités de devenir officier dans notre domaine. Vous voyez, donc tous ces parcours de vie, c'est par le SMA que aussi ça se construit. Donc ça, c'est valable pour ceux qui décident d'embarquer dans la carrière militaire, mais c'est aussi valable pour ceux qui ont décidé d'autre voie. Moi, j'ai demandé à ce qu'un état-major réfléchisse à essayer de faire un référencement de ceux que sont devenus nos volontaires par la suite. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on peut mesurer le succès du SMA parce qu'on a fait une étude récemment avec le CNRS qui démontre que 3 ans après être sorti du SMA, sur 7000 jeunes interrogés, ils gagnent 27% d'employabilité par rapport à des camarades qui ne seraient pas passés par le SMA. Vous voyez ? Donc c'est au-delà de... Parce qu'ils ne font pas forcément le métier qu'ils ont choisi en... qu'ils avaient choisi en venant au service militaire adapté. Souvent, ils font vraiment tout autre chose. Mais ils gagnent 27% de taux d'employabilité. Ça démontre que derrière, au-delà des 80% que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et donc, voilà, c'est des exemples qui démontrent à quel point ces valeurs qu'ils ont récitées un jour là, sur une place d'armes en plein soleil, à Koumac ou à Bémao en Guadeloupe, oui. ou à Saint-Pierre à La Réunion, eh bien, c'est quelque chose qui va les aider à construire.
En général, malheureusement, il ne reste que 4 minutes seulement. Vite, hein. Je vous propose de traiter de points. Bon, c'est un peu court, bien sûr, par rapport aux deux questions. Le premier point, c'est l'encadrement.
Oui.
Qui est-il ? Est-ce qu'il a une vocation particulière ? Et puis, le deuxième point, c'est ce SMA qui est donc appliqué dans les territoires ultramarins. Pourrait-il s'appliquer à la métropole ?
Alors, sur le premier point, notre encadrement, en fait, nos régiments sont tous autonomes. Donc, chaque régiment bénéficie de tout le chef de corps dans sa main, tous ses services. La DRH, direction des ressources humaines, affaires financières, techniques d'infrastructure, le service médical de l'unité et la direction de maintenance et logistique. Et à côté de ça, vous avez la partie encadrement qui va s'occuper des jeunes, qui va former les jeunes derrière. Donc, les jeunes, cet encadrement provient en général des forces, soit des unités de mêlée, mais aussi des unités d'appui ou de soutien.
Les troupes de marine tous, j'imagine. Alors,
pas forcément. 63% d'entre eux viennent des troupes de marine. Mais vous voyez, la vocation d'encadrement, elle vaut aussi bien dans les sections de formation professionnelle que dans les services. Parce que les volontaires techniciens dont j'évoquais tout à l'heure, qui avaient un diplôme qu'on remobilisait à l'emploi, ils sont employés comme secrétaires, comme mécaniciens, comme dessinateurs. Et du coup, le rôle du chef de bureau, du chef de cellule, du chef de département, c'est bien de les aider à s'élever en acquérant des nouvelles compétences. Et dans les formations professionnelles, vous avez ce chef de section qui est là présent dès le matin jusqu'au soir, qui vient dans la semaine, le soir, pour voir comment ça se passe dans la chambrée, si la discipline est respectée, si les comportements sont adaptés, qui passe, y compris le week-end, au retour d'un séjour en famille en Nouvelle-Calédonie, ils allaient faire un coup de pêche au large de Koumac, mais ils passent de temps en temps au soir voir si les jeunes sont tous bien revenus, ont bien tous pris le quart pour être là le soir. Vous voyez, c'est cette présence permanente, régulière, ils ne sont pas tout le temps derrière leur dos, mais ils peuvent venir de manière impromptue voir comment ça se passe dans les sections. Donc ça crée aussi le fait que le chef, à tout moment, il peut être là. Quoi. Et c'est important de savoir qu'on leur demande d'être attentif à chacun de leurs subordonnés, comme la prunelle de leurs yeux. Et ça, c'est partagé. Ceux qui ne font pas ça, ils sont en échec. Et en général, ça se voit directement dans les résultats d'insertion. Voilà. Quand je dis qu'il y a 80%, des fois il y a des filières qui ne fonctionnent pas bien. C'est souvent le fait que les jeunes ne sont pas mis dans la formation, mais aussi parce que le cadre n'a pas peut-être adopté la meilleure des manières le suivi de ce jeune. Donc tous nos chefs de section, leurs adjoints sont objectivés. Il y a régulièrement des commissions qui peuvent voir où ils en sont dans le niveau d'insertion qui va être leur. Il y a des audits qui sont là, menés par mon état-major, mais aussi par le régiment, pour voir comment se passent ces formations, comment les résultats sont acquis. Vous voyez et pour la question...
La dernière question, en effet, le service militaire adapté, c'est magnifique ce que vous avez décrit en général de ce service militaire adapté et de ses résultats extrêmement concrets. Est-ce que c'est adaptable à la métropole ?
Alors, vous avez une petite sœur entre guillemets, c'est un cousin maintenant du service militaire adapté, ça s'appelle le service militaire volontaire. L'année dernière, ils ont fêté leurs 10 ans depuis leur création. Ils forment 1500 jeunes par an. Dans 5 103 régiments.
C'est tout petit par rapport à ce que vous faites. Hein, vous
oui, mais c'est déjà un bel effort. C'est déjà un bel effort.
D'accord.
Et gageons que le service national aussi sera un moyen complémentaire de travailler au profit de cette jeunesse.
Très bien. Général Bellon, commandant le service militaire adapté, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct nous expliquer, nous raconter ce qu'est cette superbe organisation au service des territoires ultramarins et de la France, tout naturellement. Merci à Stéphane, à la technique qui a réalisé cette émission. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le libre journal des amitiés françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé sur Radio Courtoisie dimanche 7 juin 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.